Parce qu'en une journée, on ne peut célébrer toutes celles et tous ceux qui ont fait avancer les droits des femmes.
Parce qu'en une journée, on ne peut pas gagner l'égalité dans le travail, à l'Assemblée, dans le couple.
Parce qu'en une journée, on ne peut pas tout dire, tout dénoncer, de l'utilisation de l'image des femmes pour vendre des voitures aux violences sexistes et sexuelles.
Retrouvez-nous tous les troisièmes vendredis du mois dans notre émission Il n'y a pas que le 8 mars et en podcast sur Radio B. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Bonjour Joël.
Bonjour.
Et bonjour le sujet du mois qui nous a bien fait dialoguer, réfléchir, nous énerver et un peu sourire de temps en temps quand même. Not all men.
Not all men, le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Pas tous des machos, pas tous des violeurs, pas tous les hommes, mais beaucoup. Toi, l'homme féministe, pose-toi la question. Quand tu es avec ta bande d'amis, avec tes potes, pas de gestes déplacés, pas de blagues douteuses, pas d'interjections sexistes. Et si ça arrive, qui dit quoi? Il y a quelques jours, on discutait entre copines, moi, il y avait Chloé qui a commencé à raconter un truc qui lui est arrivé. Alors elle vit avec un compagnon, elle a des enfants. Lui, pas bricoleur du coup, il essuie la vaisselle, bon, sympa, mais planter un clou, c'est pas son truc. Chloé prend contact avec un plombier pour changer la chasse d'eau. L'artisan appelle et demande à parler à monsieur, qui prend la communication sans avoir le réflexe de dire « Excusez-moi, je vous repasse Chloé, moi j'y connais rien ». Et ensuite, bon, du coup, Myriam, elle raconte elle est mariée il y a bien longtemps, elle a divorcé après un an. Voilà. Elle était maman, travaillait comme infirmière, indépendante, quoi. Elle achète une voiture, normale, et s'étonne de recevoir les courriers de son concessionnaire au nom de monsieur. Myriam se déplace. Je vous signale que je m'appelle Myriam. Et là, elle apprend que c'est la faute du logiciel. Tous les noms sont au nom de monsieur. Invisible, les femmes, là, dans les marchands de voitures. Allez, je vous épargne le copain qui prend sa compagne pour une secrétaire alors que c'est elle qui fait toutes les démarches. J'arrête ici ma petite chronique du patriarcat au quotidien parce que nos amis, nos compagnons, les nôtres, quoi, à nous, c'est plutôt des alliés. Mais justement, comment se fait-il que des hommes qui se disent féministes ne font pas attention à ces petites situations de vie quotidienne? Comment se fait-il que les hommes que l'on croise tous les jours dans des réunions de travail, au supermarché, à l'hôpital, partout, comment se fait-il que ces hommes gentils, courtois, enfin normaux, quoi, soient aussi des hommes qui peuvent être violents, ces violeurs? Nolmen, évidemment.
Les hommes sont touchés en plein cœur, Yann, c'est vraiment trop injuste pour eux ce qui est arrivé à Gisèle Pellicot. Demander aux musulmans de prendre position sur l'islam radical après un attentat, c'est normal. Mais demander aux hommes de prendre position sur la culture du viol après qu'un mec a mis sa femme sur le bon coin, c'est le pas de trop. On n'a pas l'énergie, on n'a pas le temps. On doit boire des bières cul sec et puis après se battre. On doit empêcher notre fils de faire de la danse. Au déménagement, on doit refuser de l'aide pour pouvoir monter tout seul une commode trop lourde dans les escaliers, et quand on nous demande si ça va, dire oui oui avec les mains qui tremblent, sans compter qu'après il faut encore qu'on le mange cru, le piment le plus épicé du monde, et après tous ces apports à la société, il faudrait encore qu'on s'en mette en question, qu'on réfléchisse à des notions hyper compliquées comme le consentement. Non, not all men. Not all men, mais quand même une centaine de men, a priori lambda dans un mouchoir de poche géographique à Mazan. Not all men, mais une liste interminable de personnalités publiques masculines qui couvre un spectre allant d'un rappeur à un abbé. Not all men, mais que des men, my men. Et il se trouve qu'on en est, voilà. C'est ça qu'on doit comprendre sans être sur la défensive. Il n'y a pas des monstres d'un côté et des mecs bien de l'autre, il y a les hommes. Et dans chacun de nous sommeille, je crois, un petit tas de fumier, plus ou moins puant, qui a un jour été un peu forceur en boîte, qui a décrit la plastique de Sidney Sweeney en des termes peu délicats autour d'un vestiaire, qui a dit « je t'aime » pour juste arriver à ses fins, qui a narré avec force ricanement les phrases que polissonne d'un collègue phallocrate imbuvable avec le sexe opposé. Mais si les hommes étaient dangereux pour les femmes, ça se saurait, Yann. Tiens, regarde, on a d'ailleurs les statistiques des partisans du Not All Men qui ont filé le numéro de leur sœur à leur pote. Voilà. Soyons honnêtes, jusqu'à maintenant, les hommes n'ont pas eu besoin de soumission chimique pour fermer les yeux sur les violences sexuelles. Alors, not all men, mais oui, un peu quand même. Pas tous des Dominique Pellicot, des Guy Georges ou des Marc Dutroux, certes, mais tous une menace potentielle partie d'un système qui nous permet de l'être impunément depuis bien trop longtemps. C'est comme ça, qu'on le veuille ou non, et je crois que ce qui est attendu de nous en ce moment, c'est clairement pas de faire « nanana », mais juste de le reconnaître, de nous questionner et de nous engager à faire mieux. Vivement qu'on y parvienne.
Yann Marguet, humoriste dans Quotidien. Bon, si on repartait de cette expression, not all men, une expression qui est revenue dans l'actualité avec le procès Pellico, mais pas que, d'autres histoires font écho à cette expression. Michel, tu as suivi les affaires judiciaires du moment.
Oui, l'actu vient infirmer cette expression, not all men, avec 4 affaires emblématiques. D'abord, le meurtre horrible de Philippine. Mais là, c'est un monstre. Donc, sans papier, récidiviste, la fachosphère se déchaîne contre les étrangers. On rappelle qu'il y a seulement 13% des violeurs qui sont étrangers. Et contre le laxisme de la justice. Ensuite, la stupeur, l'abbé Pierre. La personnalité préférée des Français, accusée de violences sexuelles commises dans les années 50, avec des faits gravissimes pouvant, pour certains, s'apparenter à des viols et concernant des mineurs. Même le Vatican était informé des accusations visant le prêtre français qualifié de « terrible pécheur » par le pape. Mais l'abbé Pierre rendait bien service à l'institution. C'est une machine à cash, pour dire les choses crûment. Un personnage devenu peu à peu intouchable, voire un quasi-saint de son vivant. Pour une victime, porter plainte contre un saint, c'est impossible.
Et ensuite, peut-être un peu moins médiatisé, l'affaire Varnier.
Alors, Varnier, c'est un étudiant en 6e année de médecine, condamné à 5 ans de prison, avec sursis, en mars dernier par le tribunal de Tours pour des agressions sexuelles sur 2 jeunes femmes. Il continue d'exercer, avec une possible arrivée au sein du centre hospitalier de Carcassonne pour faire son internat. De quoi susciter l'indignation des étudiantes, des associations féministes et des syndicats. Du coup, même le parquet a fait appel, ainsi que l'ARS.
Et puis, on le disait en intro, l'affaire Mazan.
Alors Mazan, 51 hommes qui sont accusés d'avoir violé la même femme, Gisèle Pellico, droguée à son insu par son mari avec un puissant anxiolytique. Les faits, 92 viols se sont déroulés de juillet 2011 à octobre 2020. La victime a découvert ce que lui avait fait subir son mari quand il a été arrêté par les gendarmes.
D'ailleurs, c'est parce qu'il filmait sous les jupes des clientes d'un centre commercial que les gendarmes se sont intéressés à lui.
Et à la maison, il utilisait des médicaments très puissants pour plonger sa femme dans l'inconscience. 83 violeurs potentiels, 54 identifiés. Tout est banal et ordinaire chez ces hommes. Tous les âges, tous les métiers sont représentés. Ce sont des presque voisins, des célibataires, mais aussi des pères de famille. Certains se sont même rendus plusieurs fois chez Pellico. À l'ouverture du procès, l'avocat général, Jean-François Maillet, rejoint par plusieurs avocats des accusés, demande le huis clos. Mais la victime s'y oppose. « Je n'ai pas à avoir honte, dit-elle. Il faut que la honte change de camp. »
Et on a entendu des mots incroyables aux audiences.
Oui, certains avocats menacent de porter plainte en parlant de la dignité des accusés. Un avocat parle de sensationnalisme quand le ministère public demande que les vidéos soient montrées en raison de leur force probatoire. Les femmes et compagnes des accusés ont des réactions variées. Colère, incompréhension, dégoût, compassion, mais aussi déni total. Pour Vanessa, qui n'a plus aucune considération pour son ex, une colère froide. Émilie, 33 ans, dit de son mari qu'il est manipulateur. Elle l'a quitté en découvrant ses multiples relations extra-conjugales. « Je pensais vivre une vie paisible et épanouissante, mais j'étais dans l'erreur, dit-elle. » Depuis, elle vit avec le doute d'avoir été victime elle-même de soumission chimique.
Et un doute que n'a plus Cilia.
Entre 2015 et 2018, son mari, Jean-Pierre, 63 ans, et Dominique Pellico, 71 ans, l'ont violée une dizaine de fois en reproduisant sur elle le procédé utilisé sur Gisèle. Elle ne lui pardonnera jamais, dit-elle. Mais elle a cependant gardé son nom et a refusé de porter plainte pour protéger ses enfants. D'autres trouvent des excuses à leur ex-compagnon. Il a toujours été respectueux. Quand c'était non, il n'a jamais insisté. Je ne comprends absolument pas pourquoi il est là aujourd'hui. Samira T. cherche des réponses à ses questions depuis 3 ans au sujet de son compagnon Jérôme, accusé d'avoir violé à 6 reprises Gisèle Pellico. Mais elle ne l'a pas quitté et elle persiste à le soutenir. Il n'avait aucune raison d'aller voir ailleurs, dit-elle en pleurs. Celle qui avait pourtant accepté ses demandes de relations sexuelles quasi quotidiennes, des prises de photos intimes ou encore des promenades dénudées. Une autre se sent carrément responsable d'avoir refusé tout le temps les avances de son mari à une époque où elle s'occupait de sa mère malade. Je pense qu'en tant qu'homme, il a voulu aller voir ailleurs. Je le soutiens et je lui donne ma confiance totale. Toutes ces affaires si différentes, mais au fond si semblables, montrent qu'il faut qu'on ait le courage de reconnaître que ces comportements sont les résultants d'une culture du viol et des violences faites aux femmes de manière systémique, qui s'appuie sur une conception patriarcale et misogyne très répandue.
On entend dire de ces hommes qu'ils seraient des monstres.
Oui, mais qualifier de monstres les violeurs présumés, c'est participer à leur mécanisme de défense, alors qu'il serait bien plus inquiétant de devoir admettre que les violeurs sont tous ancrés dans un tissu social continu de misogynie banalisée.
Ok, mais alors est-ce qu'on peut vraiment dire tous les hommes? On en connaît, nous, des hommes, des sympas qui feraient pas de mal à une mouche. D'ailleurs, on les entend hein, nous répondre « not all men », pas tous les hommes. Et même parfois, nous, ça peut un peu nous énerver, cet argument.
Bah oui, cet argument, il peut être agaçant parce que il pose problème. Et pourquoi il pose problème? Qu'est-ce qui va pas avec le hashtag « not all men » qu'on voit fleurir sur les réseaux sociaux? Dans son article « La méprise not all men » pour le journal Le 1 d'octobre dernier, la journaliste Claire Allais résume plutôt bien les problèmes de cet argument. D'abord, « not all men », c'est une espèce de joker, de totem d'immunité qui détourne la conversation et empêche de s'attaquer aux problèmes, aux vrais problèmes. Les violences sexistes et sexuelles envers les femmes sont massives, oui, mais pas tous les hommes. Le sujet est clos, circulé, rien à voir. C'est un peu facile, non? Ensuite, cette réaction... celle du « not all men », pas tous les hommes, elle repose pour Claire Allais sur une méprise, une erreur. En effet, il est évident pour tout le monde, pour toutes les femmes et toutes les féministes, que tous les hommes ne sont pas des agresseurs ou des violeurs. En revanche, les hommes profitent du système patriarcal. Et les violences sexistes et sexuelles sont des violences systémiques, qui font système. Ce n'est pas une question personnelle ou individuelle, c'est la question d'un système, celui de la domination des hommes sur les femmes et de comment les hommes, en tant que groupe social, en profitent. Comme lu ailleurs, je cite, « Il ne s'agit pas d'essentialiser un groupe et les individus qui le composent en les soumettant à une condamnation d'office, mais de souligner les structures dans lesquelles ils baignent confortablement. » Donc, « not all men », oui, une méprise, un malentendu, une erreur. Je dirais même bien souvent un argument de mauvaise foi ou comment faire semblant de ne pas comprendre de quoi on parle. Et une fois cela posé, le hashtag Not All Men apparaît alors pour ce qu'il est, une manière de se disculper collectivement, un argument pour refuser de prendre ses responsabilités, refuser d'admettre le caractère massif, continu et systémique des violences. Bref, une réaction antiféministe de personnes qui ne se sentent pas concernées ou qui ne veulent pas se sentir concernées, qui tentent de se dédouaner au lieu de soutenir la lutte contre les violences.
On en a parlé entre autres avec Valérie Ray-Robert. Elle a écrit deux essais qui me paraissaient en lien avec nos questionnements du moment.
Valérie Ray-Robert, bonjour. Vous êtes l'autrice de plusieurs essais et notamment de « Une culture du viol à la française » et « Le sexisme, une affaire d'homme ». Pour commencer, peut-être faire le point sur la notion de culture du viol. Qu'est-ce que ça veut dire?
La culture du viol, ce sont l'ensemble des idées reçues sur les violences sexuelles, les viols et les violeurs. Et invariablement, cette culture du viol, ces idées reçues, vont contribuer à déculpabiliser les violeurs, culpabiliser les victimes et invisibiliser les viols. Et ça entretient donc une impunité des auteurs de violences sexuelles. On parle de culture parce qu'en fait, donc c'est au sens sociologique du terme, c'est ni positif ni négatif. Donc on parle de culture parce qu'en fait, ça se transmet de génération en génération, ça évolue avec le temps et ça imprègne toute la société, tous les domaines de la société, que ce soit le langage, la politique, la culture, etc.
Vous allez même plus loin dans votre essai, vous dites que selon vous, il y a une spécificité française en plus à cette culture du viol.
C'est ça. En fait, comme c'est une culture, la comparaison va peut-être choquer, mais dans le foot, on n'aime pas le foot de la même manière en France ou en Italie. Au Brésil, on dit qu'il y a une religion du foot, donc il y a des spécificités dans sa relation à ce sport-là. Et ben pour le viol, en fait, c'est littéralement pareil. On peut comprendre ça en faisant la comparaison entre Donald Trump et Dominique Strauss-Kahn. Donc Donald Trump, le nouveau président des États-Unis, qui a été accusé de viol, qui a eu des propos disant qu'il avait commis des agressions sexuelles et des viols, et Dominique Strauss-Kahn, qui a été maintes fois accusé lui aussi de violences sexuelles. Dans un cas, Donald Trump, pour sa défense, on dit que bah, les hommes sont comme ça, voilà, ils sont un peu vulgaires, ils sont un peu, ils font un peu n'importe quoi, mais bon, voilà, c'est des bonhommes bien virils. Et pour défendre DSK, bah, à l'inverse, on va vanter une forme de culture à la française, de raffinement, alors que quand on lisait le détail des actes des DSK, on était dans tout sauf dans le raffinement. Où on va dire que bah, l'amour à la française, c'est une certaine asymétrie entre les sexes, un homme qui arrache un consentement, etc. Et donc la spécificité de la culture du viol à la française, c'est en fait de considérer que bah, oui, il y a de facto une inégalité dans les relations sexuelles entre les hommes et les femmes, que les femmes aiment être brusquées, être forcées, et que c'est ça qui fait tout le charme en fait de l'amour à la française.
L'actualité du moment, c'est le procès Pellico, hein, et conforme ce que vous expliquez dans votre essai, les hommes jugés ne sont pas des monstres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi tous les hommes sont concernés par cette culture du viol?
Alors, en fait, on peut parler de privilèges. Donc très très tôt, les femmes sont éduquées dans l'idée que les femmes et les hommes sont éduqués dans l'idée que les hommes ont des besoins irrépressibles en matière de sexualité. Et que si ces besoins sont pas assouvis, il va nous arriver les pires choses. Et on peut prendre l'exemple des crimes sexuels dans l'Église. Les crimes sexuels dans l'Église sont justifiés, sont expliqués, mais aussi justifiés par le fait que les prêtres catholiques sont célibataires. Et en fait, qu'est-ce qu'on nous dit quand on nous dit ça? On nous dit, bah, vous comprenez, les pauvres gars, ils n'avaient pas accès au corps de femmes adultes, bah, donc ils n'ont pas eu d'autre choix, parce que c'est visiblement un besoin vital pour eux. Ils se sont tournés vers des enfants. Donc toutes les femmes sont éduquées en fait dans l'idée que bah, si elles ne satisfont pas les besoins des hommes, il va leur arriver les pires choses. Et donc bah, les hommes, quels qu'ils soient, tous, tirent parti de ça, parce qu'en fait on peut leur donner du sexe sans désir ni envie, parce que bah, parce qu'on a peur tout simplement. Ça c'est quelque chose qu'ils supportent très mal, mais nous on supporte encore moins bien la peur, hein. Ils en bénéficient parce qu'en fait, il ne faut pas raisonner au niveau individuel. Bien évidemment que tout le monde n'est pas un Dominique Pellico, c'est pas le sujet. Mais continuer à supporter, entourer des hommes accusés de violence, bah, c'est une manière de leur dire que au fond, ce qu'ils ont fait n'est pas si grave. C'est Margaret Atwood qui disait. Les hommes ont peur que les femmes rient d'eux et les femmes ont peur que les hommes les tuent. Et je ne suis pas d'accord avec elle là-dessus, sur la première partie de la phrase, parce que je pense que globalement, les hommes n'en ont pas grand-chose à foutre de ce que disent les femmes, en fait. Les hommes se jugent perpétuellement entre eux, et si un jour l'ensemble des hommes s'élevait pour dire bah non, stop, en fait, il faut que vous arrêtiez, on refuse d'être amis avec vous, collègues, frères, oncles, père, etc., si vous continuez à vous comporter mal, ben je pense que les violences s'arrêteraient immédiatement.
Ouais, j'ai lu un article dans lequel vous expliquiez qu'il y a comme un esprit de communauté qui se crée
C'est
le
ça.
traditionnel les potes avant les putes.
C'est ça. C'est exactement ça.
Ouais, et c'est aussi ce qu'on voit là dans cette histoire du procès Pellico et ce dont vous parlez dans vos essais, c'est l'argumentaire que vont utiliser ces hommes dans leur défense face à la justice. C'est une stratégie qui est toujours la même, quelle que soit l'origine sociale, le niveau d'études, l'âge. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ça?
Alors en fait, bon, c'est difficile. Déjà, il faut rappeler que c'est difficile de savoir ce que ces hommes pensent réellement, puisqu'en fait, ils sont jugés, ils risquent 20 ans, 15 ou 20 ans de tôle. Donc globalement, ils vont utiliser, même s'ils ont conscience de ce qu'ils ont fait, ils vont utiliser les arguments qui semblent justes pour ne pas aller en prison. Donc certains vont reconnaître les viols en se disant, ah ben, peut-être si je les reconnais, on pensera que je me repens, donc on me mettra moins. D'autres se disent, je vais jamais reconnaître, tout en sachant très bien ce qu'ils ont fait, parce que peut-être que comme ça, je serai pas condamné. C'est difficile, mais bah, ils vont toujours utiliser les mêmes arguments. C'est que ils savaient pas, ils n'étaient pas au courant, ils ont été manipulés. Ce qui d'ailleurs en soi est sur le ils savaient pas est possible parce que je lisais hier un article très intéressant dans Le Monde de Lorraine de Fouché qui a travaillé sur sur un hôpital psychiatrique où sont traités des auteurs condamnés de violences sexuelles. Et les psys expliquent très bien que pour certains, c'est impossible de réaliser les actes qu'ils ont commis parce qu'ils n'y survivraient pas, en fait. Certains sont auteurs de violences sexuelles sur des tout petits enfants. Réaliser ça, c'est d'une violence incible. Et d'ailleurs, beaucoup des auteurs qui étaient interrogés dans l'article avaient commis des tentatives de suicide. Mais oui, la défense des hommes est vraiment toujours de dire bah, c'est sa faute, elle l'a cherché, on m'a entraîné, j'étais pas au courant, je suis tombée dessus par hasard. Il y a vraiment rien d'original. Et oui, quelle que soit l'origine, la catégorie sociale, ça change pas.
Bon, le patriarcat rend possible cette culture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi le patriarcat, le sexisme sont néfastes aussi pour les hommes?
En quoi c'est néfaste? Parce que ça les entretient dans des rôles qui sont extrêmement figés. Le patriarcat est blanc, il est hétérosexuel, il est cisgenre, etc. Donc déjà, tous les hommes qui ne sont pas blancs, hétérosexuels, cisgenres, payent le prix très fort. Mais on constate que bah, c'est le patriarcat qui fait que... On a fait des études sur la santé des hommes et on se rend compte que les femmes ont plus de problèmes de santé dans leur vie que les hommes, mais elles s'en tirent mieux parce qu'elles consultent beaucoup plus les médecins, les professionnels de santé que les hommes. Les hommes ne consultent pas des professionnels de santé, que ce soit pour la santé physique ou la santé mentale. Donc, ils meurent beaucoup plus, ils meurent plus d'accidents routiers, ils meurent plus d'accidents du travail, ils meurent plus d'accidents domestiques, ils complètent plus leur suicide, beaucoup plus que les femmes. 93% des personnes en prison sont des hommes. Donc oui, évidemment que le patriarcat a un coût énorme pour la société, mais pour les hommes également.
Vous avez écrit qu'il faut questionner la manière dont les hommes deviennent des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Bah, en fait, Beauvoir disait « on n'est pas femme, on le devient », et c'est pareil, « on n'est pas homme, on le devient », et on se rend compte en fait que dès le plus jeune, on a des études qui montrent que quand les garçons naissent, ils ont tendance à avoir plus d'émotions que les petites filles. Ils vont plus pleurer, etc. Et très très rapidement, en fait, on va se rendre compte que ces émotions sont inhibées par les pères et les mères, qui estiment que les garçons doivent pas exprimer autant d'émotions que les filles. Et donc, très rapidement, les enfants garçons vont inhiber leurs émotions. Et il y a une sociologue américaine qui a travaillé sur les adolescents de l'âge de 12 à l'âge de 16 ans. Et autant à l'âge de 12 ans, les garçons ont encore des meilleurs amis à qui ils confient leurs émotions, autant à l'âge de 16 ans, ils n'en ont plus et ils ne confient plus leurs émotions. Et en fait, il y a une expression qui dit... C'est une femmelette ou soit un homme, etc. On n'a pas les expressions équivalentes pour les femmes parce qu'en fait, il est très facile en tant qu'homme de tomber, de ne plus être un homme. Et les hommes passent leur temps en fait à se juger entre eux. Est-ce que tu es assez viril? Est-ce que tu as les bons vêtements? Est-ce que tu écoutes la bonne musique? Est-ce que tu joues aux bons jeux vidéo? Parce qu'en fait, il ne faudrait surtout pas qu'ils jouent qu'ils aient des loisirs qui ne soient pas des loisirs d'hommes. Autant c'est toléré que des femmes aient des loisirs d'hommes, autant qu'un homme ait des loisirs dits de femmes, ça reste extrêmement compliqué. Et donc, bah oui, les hommes doivent ne pas montrer leurs émotions pour être des hommes, être hétérosexuels évidemment, être en compétition intrasexuelle avec les autres hommes, les écraser, ne pas demander de l'aide, réussir tout ce qu'ils accomplissent, etc., etc. Donc, c'est des cadres rigides extrêmement, extrêmement durs.
Il y a quelque chose qui m'a interpellée dans l'un de vos essais, c'est que vous dites qu'il y a dans cette virilité-là l'esprit de protéger les femmes. Important pour les hommes d'être protecteurs. Mais finalement, on se dit que s'ils sont dans cette posture de protecteur, ils savent qu'il faut protéger les femmes des autres hommes. Donc finalement, ils en ont un petit peu conscience de tout ça.
C'est assez paradoxal parce qu'en fait, lorsque l'affaire Polanski est ressortie, donc Polanski qui avait violé en 77 Samantha Gamer, les premiers défenseurs de Polanski, leur ligne de défense, c'était « Ah, mais à quoi s'attendait en allant seule chez lui une gamine de 16 ans ?» Et donc, ils alimentaient vraiment l'idée, en fait, que, bah oui, si une gamine de 16 ans va chez un homme, c'est au fond assez logique qu'il la viole. Et donc, le not all men qu'ils nous renvoient, ils ne se l'appliquaient pas à eux parce que visiblement, ils étaient vraiment dans l'idée que tous les hommes sont des prétendeurs. J'ai tendance à dire que les plus grands misandres, c'est avant tout les hommes. Hein. Ils ont une idée d'eux-mêmes qui est très, très négative.
Pour les femmes, les féministes, hein, on se retrouve souvent dans une impasse pour parler de tout ça justement avec d'autres hommes, parfois même ceux qui se disent être nos alliés. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'arriver à échanger là-dessus? Et si oui, comment on fait?
Je pense que c'est compliqué parce qu'en fait, c'est illusoire de faire croire aux hommes qu'en fait, ils ont autant à gagner que nous dans le féminisme. En fait, c'est pas vrai. Évidemment qu'ils ont beaucoup à y perdre, hein, l'accès gratuit au corps des femmes, l'accès à la parole publique, littéralement partout. Je sais pas, même, enfin, si on prend au sein de nos organisations militantes, etc., moi je suis chaque fois frappée de voir que tout le boulot pourri en amont de faire les tracts, enfin, vous voyez, tout le boulot invisible, il est fait par les femmes et puis les hommes sont sur le devant de la scène à prendre la parole. Donc, ça me semble difficile parce qu'en plus, par expérience, comme la barre est très très basse avec les hommes, on a quand même vite tendance, sans même s'en rendre compte, à survaloriser celui qui est un petit peu moins médiocre et il prend très vite une confiance qu'il ne mérite pas. C'est difficile, je pense qu'il faut vraiment, là j'en arrive à la conclusion qu'il faut vraiment donner le plus de pouvoir possible aux femmes parce qu'en fait, plus elles ont du pouvoir, moins elles sont en position de ne pas avoir le choix que de céder à ce que leur font les hommes en fait. Oui, c'est pour ça que je pense que le débat actuel sur le consentement est un faux débat, parce que les femmes sont souvent pas en, en n'ont pas d'autre possibilité que de consentir parce que économiquement, bah, elles dépendent d'un homme, parce que ceci, parce que cela. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, pour avoir fréquenté beaucoup, beaucoup d'hommes, j'ai quand même vraiment l'impression que ceux qui sont les plus corrects sont ceux qu'on voit nulle part, sont juste les mecs du quotidien. Qu'on voit pas sur les réseaux et que les autres, quand même, ont vraiment des intérêts à être en avant, quoi.
Si on revient sur le travail sur ce travail qu'on doit faire en amont, si on doit quand même avoir un petit peu d'espoir, peut-être avec les générations futures, avec nos enfants, parce que parfois on a des fils quand même,
Bien sûr.
comment on travaille pour eux? Parce que là, dans ce que vous dites, je me dis que oui, mes fils non plus n'auront pas grand-chose à gagner à changer le système.
Alors non, là je parlais vraiment d'hommes adultes. Pour les enfants, je pense que la donne est bien différente. Le problème, et encore une fois, je vais être pessimiste, le problème c'est que c'est le score du RN aux législatives, c'est un gouvernement d'extrême droite à l'heure actuelle qui fait que toutes les belles initiatives qu'on pourrait mettre en place, comme des cours d'éducation sexuelle à l'antiracisme, antidiscrimination à l'école, parce qu'il faut vraiment co commencer extrêmement tôt, parce que les parents ont beau être armés des meilleures intentions du monde, si derrière il y a bah, des petits copains qui eux sont élevés de manière sexiste, des cours sexistes, des séries, des dessins animés sexistes, les parents n'y arriveront pas. Et le problème, c'est qu'on va pas dans ce sens-là avec le gouvernement actuel, donc c'est très difficile, mais moi je suis pas mère, donc c'est compliqué de me permettre de donner des leçons à qui que ce soit sur le sujet, mais je dirais bah, d'être extrêmement attentif à ce qu'on leur fait lire, à ce qu'on leur fait voir, à sans cesse leur donner les clés de compréhension et de décryptage de ce qu'ils regardent, c'est-à-dire oui, on peut regarder telle série, mais il faut avoir conscience que bah, là il y a un biais raciste, un biais sexiste, un biais ci, un biais là. Sans cesse s'interroger aussi sur ce qu'on véhicule. Est-ce qu'on fait pas des différences entre les filles et les garçons, hein, bien malgré nous, mais on a été formaté comme ça. Mais c'est aussi au niveau collectif que ça doit se penser. Donc la conclusion serait qu'il faut refaire passer la gauche au gouvernement et après on va mettre en place des solutions.
Ne croyez pas que les gendarmes soient toujours des gens sérieux. Mais non, mais non, mais non, mesdames. Mais non, mais non, mais non, messieurs. En m'en allant allant à Bergame l'autre jour vendre mes œufs, j'ai rencontré trois gendarmes, un tout jeune et deux grands vieux. En m'apercevant les lâches, ils m'ont barré le chemin. Le petit frisa sa moustache et m'a prise par les mains. Ne croyez pas que les gendarmes soient toujours des gens sérieux. Mais non, mais non, mais non, mesdames. Mais non, mais non, mais non, messieurs. Le petit sécha mes larmes, les deux grands gobèrent mes œufs. Mais oui, mesdames. Mais oui, messieurs. Hélas, j'eus beau me débattre, mes œufs étaient sacrifiés. Le premier m'en prit 24, le second vida le panier. Quant au pauvre petit troisième, il lui restait rien du tout. Alors il m'a dit je vous aime et il m'a mis sur ses genoux. Ne croyez pas que les gendarmes soient toujours des gens sérieux. Mais non, mais non, mais non, mesdames. Mais non, mais non, mais non, messieurs. Le petit sécha mes larmes, les deux grands gobèrent mes œufs. Mais oui, mais oui, mais oui, mesdames. Mais oui, messieurs. Pendant que ces deux camarades mangeaient plus que de raison, au point d'en être malade, le petit sur le gazon avait déchiré ma robe en me couvrant de baisers. Il m'a dit, c'est toi que je gobe, viens par là, je vais t'épouser. Ne croyez pas que les gendarmes soient toujours des gens sérieux. Mais non, mais non, mais non, mesdames. Mais non, mais non, mais non, messieurs. Et je suis devenue la femme du petit qui aimait pas les œufs. Mais oui, mesdames. Mais oui, messieurs.
Eh oui, cette chanson charmante m'a été soufflée par Bertrand Dical dans son émission La chanson qui fait l'actualité, interprétée par Mireille, donc voir que ça ne date pas d'hier. Souvent, la chanson emprunte une pente qui tend à considérer le viol comme un événement romanesque sans grande importance et qu'on le veuille ou non, notre culture populaire minore souvent le viol. C'est ce que dit Bertrand Dical. Elle imprègne tout, cette culture, tout le monde. Les hommes, les femmes, comme l'a dit tout à l'heure Michel quand elle parlait des réponses des femmes, des accusés. Cette culture du viol, souvent minimisée, est institutionnalisée. Elle existe depuis toujours, lors des conflits par exemple. C'est une véritable arme de guerre, souvent passant pour des dommages dits collatéraux, ignorés et impunis. Certains disent inévitable, évidemment, ces pauvres hommes, loin de chez eux, aveuglés par leurs pulsions. Il faut bien leur donner un peu de réconfort, il faut qu'ils gardent le moral. Non, c'est pas ça. C'est que le viol, c'est un acte, c'est pas un acte isolé, c'est une véritable arme de guerre, comme je disais. C'est planifié par l'autorité politique et militaire. C'est utilisé de manière stratégique par des parties d'un conflit pour humilier, affaiblir, assujettir, chasser, détruire. La culture du viol en temps de guerre, c'est l'acte de viol, mais c'est aussi l'esclavage sexuel, c'est la prostitution forcée, c'est la grossesse forcée, c'est la stérilisation forcée aussi dans certains cas. C'est une stratégie, une tactique qui sert à instiller la peur au sein d'une communauté, à humilier, punir, prendre le contrôle, à forcer à fuir aussi, à forcer à obtenir des informations ou des confessions. C'est souvent les femmes et les filles qui sont les principales cibles des violences sexuelles dans les conflits à travers le monde, mais pas que. Des fois aussi des hommes et les garçons. C'est resté très très longtemps tabou, mais on en a entendu parler en Irak il y a quelques années. Les traces physiques et psychologiques laissées après un viol sont évidemment énormes. Un article de Amnesty International documente avec précision cette culture du viol dans les conflits actuels. À souligner, mais c'est ce que j'ai appris là dans cet article, que le viol est interdit dans l'ensemble des codes de la guerre. Bah oui, parce qu'il y a des codes de la guerre, on l'oublie, mais enfin c'est écrit tout ça. Le 19 juin 2008, le Conseil de sécurité des Nations Unies qualifie le viol de crime de guerre, crime contre l'humanité et crime constitutif du crime de génocide. Ça nous rappelle quelque chose, ça, en ce moment ? Ce qui implique que les actes de viol en temps de guerre doivent être punis. Alors, en temps de paix, ici en France, quand une femme parle publiquement du viol, elle permet de parler de ce système qui met tout un chacun en position de domination, saluant son courage.
My mind, I need to get out of sight, but I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry. 'Cause I didn't mean to hurt him. Could've been somebody's son, and I took his heart with him.
Le titre Man Down de Rihanna. Pour la petite histoire, le clip montre Rihanna tuer un homme après avoir été violée et expliquer, regretter son geste. Et c'est de ça dont parle la chanson. Pour rappel, Rihanna, c'est une star de la chanson américaine et qui a été victime des coups de son conjoint de l'époque, le rappeur Chris Brown. Il a été condamné. À la sortie de ce clip, branle-bas de combat par rapport au message, hein, et comprend bien pourquoi. Mais la chanteuse et le réalisateur du clip ont renversé la vapeur en faisant une liste longue comme le bras de chansons faisant l'apologie du viol. Mais pour le coup, là, ce sont des hommes les auteurs de ces chansons. De quoi interroger ce concept de domination masculine ?
Alors la domination masculine n'a pas le même impact évidemment sur la vie des femmes selon l'endroit où l'on vit, hein, selon le moment aussi où l'on vit. Alors c'est le nom d'un documentaire français de quelqu'un qui s'appelle Patrick Jean qui est sorti en 2009 et dont on a déjà parlé dans cette émission. Chacun joue le rôle pour lequel il a été programmé, explique Patrick Jean. Patrick Jean filme après une séquence dans un centre médico-légal où des femmes expliquent leur quotidien. Entre petites humiliations et violences permanentes, les agresseurs, des hommes qu'elles ont rencontrés, qu'elles ont aimés, qui petit à petit se sont permis de les dominer, malgré leur résistance. Dans l'intimité, ils se laissent aller à exprimer sans retenue la violence contenue, retenue dans la vie sociale.
Bon, je m'appelle Denis. Je suis un homme violent. Alors, quand j'avais une discussion avec mon ex, bon, ça escaladait tranquillement, elle me résistait, elle voulait pas comprendre mon point de vue, elle me tenait tête, je la dénigrais, je la baissais, je la critiquais, je pouvais même la prendre physiquement et puis la secouer, la rentrer dans le mur, ça pouvait se rendre jusque-là. Évidemment, il y avait toujours la petite gifle, là, inattendue, là. Je pense qu'il y avait un peu, il y avait de ça dans ma violence où... J'aimais prendre l'autre sans prévenir. Là, t'sais. Puis là, s'il y a une escalade, après la gifle, c'est quoi? C'est le coup de poing? J'ai juste besoin d'être un peu éduqué, dans le fond. J'ai juste besoin d'être un peu éduqué. Je sais pas quelle magie, moi, qui s'est opérée en moi, qui m'a fait accepter de me laisser aider. Tout à coup, à force d'introspection, j'ai vu... une multitude d'actes de violence que moi, j'ai commis. Puis là, ça m'a frappé comme une masse, tu comprends? Et cette prise de conscience-là, pour moi, c'était même... Il y avait une composante physique à ça. Je suis venu comme étourdi, le souffle coupé, comme ça m'a donné un coup de poing dans le ventre, là, tu sais. Je suis un homme violent. Moi, je me rappelle les premières fois, je suis un homme violent. Juste le dire, là, puis... ça m'envahissait, là. Je me disais, ça se peut-tu que je sois rendu là à admettre ça? T'sais? J'avais beau le savoir, j'avais beau l'admettre, mais encore en dedans de moi, il y avait quelque chose qui disait, ça se peut pas, je suis pas ça. Bien que je l'admette, J'avais pas encore fini de découvrir à quel point je l'étais. Quand on se parlait tantôt, si on posait la question à des hommes comme ça autour de nous, là, pour le fun, au restaurant tout à l'heure, au serveur par exemple, on lui demandait « Tu sais-tu, ça fait combien de temps que les femmes ont le droit de vote? » Il saurait pas quoi répondre. Puis si on essayait de voir avec lui, est-ce qu'il est sensible à cette réalité-là du fait qu'on est dans une culture qui repose sur des réalités comme celle du paradis terrestre où c'est Ève qui a été séduite par le démon puis qui a donné le fruit défendu à Adam. Puis Adam, quand Dieu l'a questionné, sa première défense, il disait « Oui, mais c'est elle! » Puis on est encore dans ça aujourd'hui. Moi, dans ma dynamique de violence conjugale, c'était ça. C'était elle. Quand je suis arrivé en thérapie, ce que j'aurais voulu faire, convaincre le thérapeute que c'est elle. Puis qu'ils me disent « Ah oui, Denis, t'as raison. Toi, t'es un bon gars. Toi. Elle, envoie-moi-la. On va l'arranger. » Ça a été long avant d'échapper à cette croyance-là. Ça, le déclencheur, c'est pas l'autre. Le déclencheur, c'est moi. Moi, je suis bien conscient que la violence, c'est pas quelque chose qui est réglé. Si je suis pas prudent, si je fais pas attention, si je garde pas ma vigilance, si je continue pas d'appliquer les principes qu'on m'a appris que j'ai appris en thérapie, je pourrais retourner à la violence. C'est pas calculé, ça se fait. Ce qui est calculé, c'est de pas agir là-dessus. C'est ça qui est calculé. Oui. Si je regarde juste autour de moi, là, quand j'en parle, ils sont nombreux, ceux qui viennent me voir, pour me dire qu'eux aussi, ils sont dans une dynamique de violence avec leur conjointe. Ou des fois, c'est des femmes qui viennent me voir pour me dire « Parle avec mon chum, tu sais, parce que lui aussi est comme ça. » On commence à l'admettre, tu sais. Puis on n'est pas si nombreux que ça à l'admettre, mais on est là, on commence à l'admettre, heureusement. Puis bon, le chemin, il y a du chemin à faire. Il y a du chemin à faire parce que non seulement on va devoir renoncer à notre violence, mais cette domination-là, elle se manifeste pas juste dans la violence, elle se manifeste de toutes sortes de façons. Tu sais, la culture est là, la religion catholique, tu sais. Enfin, je dois regarder la religion chrétienne parce que chez les chrétiens, c'est pas plus drôle que chez les catholiques non plus. Puis là, il y a d'autres religions aussi, on n'en parlera pas, mais on pourrait en parler jusqu'à après-demain. C'est ça, il y a quelque chose là, qui nous pousse à garder ce pouvoir-là. Là. Croire à l'égalité, hein, c'est ça. Peut-être c'est ça le grand défi de l'humanité, autant pour les hommes que pour les femmes, en tout cas, je ne sais pas. C'est ça pour les femmes, ça va pas dans la même direction que pour les hommes, parce que pour les hommes, croire à l'égalité, c'est renoncer à un certain pouvoir. Alors que pour les femmes, croire à l'égalité, c'est acquérir de plus en plus de pouvoir. Bon, enfin, ça va prendre combien de temps qu'on démêle ça ensemble? Mais on a envie de le faire, ça a l'air. Moi, j'ai envie de le faire. Essayer, en tout cas.
C'est ça, reconnaître, accepter de travailler sur sa violence, c'est un premier pas. Et je trouve ça vachement intéressant ce qu'il raconte. Ce monsieur, les conséquences de l'éducation, des influences mercantiles... d'un pouvoir politique toujours détenu en majorité par des hommes, cette construction de faire des petits garçons, des hommes puissants, des dominants. Le documentaliste, là, il travaille avec sérieux tout au long de son documentaire. Je trouve ça intéressant. Pas facile d'aborder le sujet de la domination masculine, construction sociale présente partout, de partout dans le monde. Des groupes masculinistes revendiquent cette domination et envahissent les réseaux sociaux de leurs propos misogynes et violents et haineux. On le voit aussi dans le documentaire, ils leur donnent la parole. Des pressions pour empêcher le documentaire d'être diffusé. À la sortie du film, entre autres, Éric Zemmour, présent dans le documentaire à la fin, en y défendant l'homme comme prédateur, dit-il, exige l'arrêt de l'exploitation du film. Il estimait que ses propos avaient été déformés. Menacé par des membres de la mouvance masculiniste canadienne aussi, l'auteur du documentaire a dû renoncer à présenter son œuvre lors d'une projection quand il était à Montréal. Ah, privilège, quand tu nous tiens. J'avais juste besoin d'être éduquée, dit Denis dans l'interview. Natacha, t'en penses quoi ?
Eh oui, comment élever les garçons ? Vaste question. Importante question. Et c'est justement le titre d'un des épisodes de l'excellent podcast de Charlotte Bien-Aimée, un podcast à soi. On vous le conseille vivement.
J'ai une copine qui, quand elle était enceinte, elle voulait très fort avoir une fille. Parce qu'elle me disait, tu te rends compte, déjà, il va naître dans une famille blanche, avec du capital économique, du capital culturel. Alors si en plus c'est un mec, en termes de position dans l'espace social, de domination, c'est chaud, quoi. Finalement, elle a eu un garçon, et elle se dit, c'est cool, il y a plein de taf, quoi.
Madeleine Pelletier a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'éducation féministe des filles ». Donc autant vous dire que le jour où je l'ai trouvé, je me suis dit « le voilà, mon manuel d'éducation féministe ». Et en réalité, dans les premières pages, elle écrit « ce livre ne sert à rien ». Tout ce que vous ferez, vous, parce qu'elle s'adresse aux mères, sera une goutte d'eau dans l'océan, parce que toute la société sera contre vous.
Le plus souvent dans l'histoire, anonyme était une femme.
Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées.
Maintenant, il faut des mots.
Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire.
Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing.
Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer.
Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée. Épisode 44, comment élever les garçons.
Parfois, je manque de mots. Souvent, je manque de temps pour réfléchir à la façon dont je peux répondre aux questions de mon fils de 8 ans concernant le féminisme. Sans cesse, je navigue, je suis partagée, entre le protéger de la violence du monde et lui dire la vérité, entre l'aider à résister et passer sous silence certaines réalités, le laisser en paix encore un peu. Je chasse l'idée qu'il sera un homme plus tard, que toute la société l'encouragera à exercer son pouvoir de domination. Aujourd'hui, il est avant tout un enfant. Je veux le laisser explorer, prendre toute sa place, donner son avis, s'inventer mille mondes imaginaires. Et puis, je réalise à chaque instant que ces mondes sont façonnés par la société dans laquelle nous vivons. Lorsque je le vois jouer avec sa petite sœur, qu'il décide qu'elle sera une reine qu'il conduira ensuite au cachot, que je les vois rire tous les deux au milieu des cartons devenus châteaux. Je me dis que tout commence maintenant, que tout a déjà commencé.
Dans ce podcast, Charlotte Bien-Aimée explore plusieurs questions essentielles. Comment élever des garçons dans une société qui reste marquée par le sexisme? Comment empêcher qu'ils ne deviennent des agresseurs? Et si cela arrive, que faire? Est-ce qu'une éducation non sexiste peut suffire à elle seule à faire tomber le patriarcat? Voilà, donc un documentaire radio passionnant qui mêle, comme toujours avec Charlotte Bien-Aimée, des témoignages issus de l'expérience et puis les sciences sociales. Je vous invite à l'écouter, c'est sur Arte Radio, un podcast à soi, donc épisode 44.
Un livre aussi à conseiller?
Oui, un livre toujours sur cette question de comment élever les garçons. Le livre a pour titre « Tu seras un homme féministe, mon fils, manuel d'éducation antisexiste pour des garçons libres et heureux » par Aurélia Blanc et il vient d'être réactualisé là en 2024 pour une nouvelle édition. Alors c'est un livre à offrir aux parents de petits garçons, c'est un bon complément au podcast que je viens de vous présenter puisque comme on l'a entendu à l'instant, éduquer des filles féministes c'est bien, mais ça ne sert à rien si dans le même temps on continue à élever des garçons dans le même moule patriarcal. Dans ce livre qui est bien documenté, agréable à lire, l'autrice va partager des recherches, découvertes, des lectures, des pistes de réflexion, des idées pour aider les parents à élever leurs garçons de manière antisexiste. Avec une idée centrale qui soutient son propos, c'est celle que le patriarcat, la masculinité toxique, les stéréotypes virils font aussi souffrir les garçons. Donc tout le monde a à gagner à une éducation féministe. C'est un argument, à mon avis, qui peut fonctionner, qui peut motiver les parents, car évidemment, tous les parents ont envie du bonheur de leur enfant. Donc, plein de propositions enthousiasmantes, comment apprendre aux garçons le respect de soi, des autres, leur apprendre à développer leur singularité, à exprimer leurs émotions, etc., etc. Le livre a quand même quelques défauts, il y a quelques constats qui sont posés un peu rapidement. Certaines actions ont un petit côté conseil en communication positive. Et puis évidemment, c'est ce que rappelait Valérie Ré-Robert tout à l'heure dans l'interview, c'est un peu faux quand même de dire que les garçons, les hommes en général, ont tout à gagner du féminisme, parce que dans la pratique, l'égalité va impliquer qu'ils perdent des privilèges. Mais bon, c'est un livre qui reste efficace et accessible avec des sources intéressantes. Alors n'hésitez pas.
Le système patriarcal n'est pas inscrit dans nos gènes, il est culturel. Il n'y a donc pas de déterminisme. Il peut être remplacé par un autre système plus équitable, plus équilibré entre les deux sexes. C'est une citation de Marilène Patou-Matisse, préhistorienne, auteure du livre « L'homme préhistorique est aussi une femme ».
Donc un autre exemple de livre à consulter, hein, comme on le montre dans les livres que vous avez évoqués, hein, c'est important d'éduquer les jeunes, mais...
Éduquer les jeunes, mais aussi éduquer et interroger les adultes. Messieurs, vous êtes sûrs de ne pas être comme tous ces violeurs ? Observez la façon dont les hommes traitent les femmes. Écoutez la façon dont vos pères parlent des femmes et des filles. Êtes-vous sûr que jamais vous n'avez eu un propos sexiste ? Avez-vous réagi à chaque fois qu'un homme a dit une chose de sexiste ? Avez-vous protesté lorsqu'un banquier, un vendeur, un garagiste s'est adressé à vous en ignorant votre femme alors que vous étiez tous les deux concernés ? Vous devez changer et ne pas systématiquement vous sentir puni lorsqu'on parle de sexisme. Pensez à ce que cela fait lorsqu'un homme vous prend pour une idiote et vous explique ce que vous savez aussi bien que lui. Imaginez ce que cela fait si vous allez acheter une voiture avec votre propre argent. Le vendeur, après vous avoir demandé « Vous êtes seul ?», vous propose le nuancier des couleurs mais ne parle pas de la motorisation. Faut-il vous décorer parce que vous n'avez pas commis d'agression sexuelle ? C'est un comportement simplement normal qui ne nécessite même pas qu'on en parle. Messieurs, éduquez-vous également seuls, sans demander en permanence aux féministes de faire un travail de pédagogie. Les ressources féministes abondent sur le net, des podcasts, des livres, des magazines, des documentaires, sur la notion de consentement et même sur le partage des tâches ménagères. Pensez à toutes les femmes que vous connaissez et que vous aimez qui sont touchées par le sexisme et les violences faites aux femmes. Mobilisez-vous à leur côté sans relâche. Il faudra probablement un bon moment pour tout changer.
Et puis si c'est plus facile pour vous, messieurs, il y a un homme qui s'est posé des questions et qui en a fait un essai.
Et oui, on pense notamment au petit ouvrage de Francis Dupuy-Déry, « Les hommes et le féminisme, faux amis, poseurs ou alliés ». Il est sorti tout récemment aussi. Ce petit bouquin s'ouvre sur cette citation de la formidable féministe noire américaine Bell Hooks. « Tous les hommes soutiennent et perpétuent le sexisme et l'oppression sexiste d'une manière ou d'une autre. S'ils ne doivent pas culpabiliser d'avoir intégré le sexisme, ils doivent cependant assumer la responsabilité de l'éliminer. » Dans ce petit bouquin, Francis Dupuy-Déry nous offre une réflexion critique sur l'engagement des hommes dans les luttes féministes. Il propose notamment à la fin du livre un petit guide de 10 empowerment pour hommes féministes. 10 empowerment qu'on peut traduire par désempouvoirment, perdre du pouvoir, parce que c'est bien l'enjeu, accepter de perdre des privilèges et du pouvoir. Voici alors quelques conseils, mais que quelques-uns, il y en a plein, et idées d'action pour nos amis et alliés hommes qui ont retenu mon attention. Alors notamment celui de pratiquer une écoute active plutôt que ce qu'il appelle la surdité défensive. Ne pas discréditer le vécu des femmes, apprendre à se taire et à ne pas toujours être au centre de l'attention. S'informer, nous disait Michel tout à l'heure, s'éduquer par soi-même, ne pas attendre que les féministes vous disent quoi faire. Et enfin, celui sans doute crucial de briser la solidarité entre hommes, c'est-à-dire ce que Francis Dupuy-Déry appelle pratiquer le boys watch, la veille masculine, car nous rappelle encore Bell Hooks, les hommes ont une immense contribution à apporter à la lutte féministe dans le fait de révéler, de confronter, de transformer le sexisme de leur père et de s'y opposer.
Et moi, je vous invite sur cette thématique de la culture du viol à aller écouter des avocates sur la chaîne YouTube de Mediapart. C'est en accès libre. Le sujet MeToo et la justice après le choc Mazan, en finir avec la culture du viol. Très intéressant d'entendre ici comment la justice aurait aussi besoin d'évoluer. Et comment ça se passe dans les tribunaux. Avant de nous quitter, un petit rappel avec des dates à noter. On va rester dans le domaine de la justice avec la venue de l'avocate Marie Dosé à l'université Lyon 3 de Bourg-en-Bresse. C'est le samedi 23 novembre à 18h. On y sera.
Voilà, et puis ce même jour, le 23 novembre, la marche contre les violences faites aux femmes organisée par Nous Toutes 01 et un collectif de syndicats, de partis politiques et puis aussi d'associations. Rendez-vous à 14h au Square Simone Veil de Bourg-en-Bresse.
Merci à toutes pour cette émission. Merci à Jimmy, à la technique. Une petite dédicace à Claude, notre auditeur le plus attentif. On se retrouve le mois prochain. À bientôt.
À bientôt.
Parce qu'en une journée, on ne peut célébrer toutes celles et tous ceux qui ont fait avancer les droits des femmes.
Parce qu'en une journée, on ne peut pas gagner l'égalité dans le travail, à l'Assemblée, dans le couple.
Parce qu'en une journée, on ne peut pas tout dire, tout dénoncer, de l'utilisation de l'image des femmes pour vendre des voitures aux violences sexistes et sexuelles.
Retrouvez-nous tous les troisièmes vendredis du mois dans notre émission « Il n'y a pas que le 8 mars » et en podcast sur Radio B.